J'aimerais parler ce matin sur « Testé par Dieu » dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 12. « Or David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shamma. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Amen. » On refera quelques lectures dans ce chapitre 17 par la suite, mais pour une première lecture, j'arrête ici. David, nous savons qu'il a été inspiré par le Saint-Esprit, qu'il a été saisi, il a été oint. Ça, c'est dans le chapitre précédent, c'est-à-dire que Samuel a versé l'huile sainte, l'huile d'onction sur David, et il a été saisi par l'Esprit depuis ce jour et dans la suite. Et nous savons qu'il a composé des psaumes inspirés. Ce n'est pas juste des paroles, ce n'est pas juste de la musique, mais c'est en communion avec Dieu qu'il a été inspiré, conduit par l'Esprit, il a composé des psaumes. Vous connaissez sans doute ce verset issu du psaume 60 et verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Mais s'il a pu écrire ces choses, c'est parce qu'il avait fait des expériences et qu'il avait connu des victoires dans sa vie personnelle. Parce qu'une chose est de parler sur Dieu, mais une chose est de vivre des expériences avec Dieu et de témoigner de ce qu'on a vécu avec Dieu. C'est différent. David a accompli des exploits, oui. Nous savons que, à certains moments, tout était contre lui. Il était peut-être le plus faible. Il était dans un état de détresse. Parfois, c'était le plus jeune. Mais ça n'empêche pas que Dieu lui donnait la victoire. Parce que la victoire ne dépend pas de notre âge, elle ne dépend pas de notre force physique, mais elle dépend de notre relation avec Dieu. David avait une bonne relation avec Dieu. C'est pourquoi il dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Nous savons que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais avec Dieu, tout devient possible. C'est lui qui donne du succès à nos entreprises. Et si je vous pose la question, allez, d'après vous, quel est le plus grand exploit de David? Qu'est-ce que vous répondriez? Sa victoire contre Goliath. Le géant Goliath, 3 mètres de haut, armé, un homme de guerre, et lui qui va avec sa simple fronde. Tout le monde connaît cette histoire. Cette victoire contre Goliath a été un tournant décisif dans la vie de David. Ça va le propulser à la maison royale, à être utilisé par Saül et à devenir le gendre du roi. Il y a eu un tournant. Il y a des fois dans nos vies des victoires que nous allons remporter qui vont être des tournants décisifs. Mais il faut passer par le géant Goliath. Il a fallu qu'il triomphe de ce géant. Mais avant de parler de cette victoire, j'aimerais qu'on voit les 5 tests par lesquels David est passé avant d'obtenir la victoire. Parce que nous pouvons parler de victoire, nous pouvons parler de ce que Dieu fait, mais il y a tout un aspect de préparation. Et si nous négligeons la préparation, nous n'obtiendrons pas la victoire. Le premier test que je vois, c'est au verset 12 à 15, ce que nous avons lu. Je l'appelle le test de l'humilité. Car au chapitre 16, David vient d'être oint pour être le futur roi d'Israël, donc il va remplacer Saül. Samuel est venu avec la corne d'huile et l'a choisi au milieu de ses frères. Et déjà, David pourrait dire, bien, c'est moi qui vais régner. Il a déjà l'onction. Il a déjà les promesses de Dieu sur sa vie. C'est donc une position très élevée. En fait, dans le royaume, c'est la position la plus élevée. La place de roi, c'est le numéro 1. Mais qu'est-ce qu'il fait au verset 12? Il reste dans son humble travail de berger, un peu reculé, un peu à l'écart des gens, alors que ses frères, il est dit qu'ils sont déjà enrôlés dans l'armée, donc ils sont beaucoup plus proches du roi. Mais lui, David, n'a pas cette proximité. Ses frères sont déjà au combat, ils peuvent déjà remporter des victoires. David est cantonné à garder les brebis de son père. Ses frères font déjà des choses pour Dieu, lui il ne fait encore rien. Donc David aurait pu développer une sorte de jalousie, d'envie et de dire « mais quand viendra mon tour, j'ai été oint pour être roi et on me cantonne à garder des brebis, c'est pas le travail d'un roi ». Et pourtant il le fait. Et je pense que là, c'est le premier test, le test de l'humilité. Est-ce qu'on va accepter de faire des choses humbles? Est-ce qu'on va accepter de faire des petites choses? Jésus le dit, à celui qui fait les petites choses consciencieusement, on lui confiera de plus grandes choses. Et David, il fait des petites choses. Mais déjà sur sa vie, il y a une promesse de Dieu pour faire de grandes choses. Mais néanmoins, il passe le test de l'humilité. 1 Pierre 5,6 « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Parce qu'il y a un temps convenable pour arriver là où Dieu veut. Mais il y a un temps où on doit s'humilier sous la puissante main de Dieu. Et c'est le temps pour David d'écouter Dieu. Ce n'est pas du temps perdu parce que, en fait, dans ce temps d'humilité, Dieu est en train de travailler son cœur. Voyez, notre cœur, à la base, il est dur, il est orgueilleux, il est réfractaire aux choses de Dieu. Mais là, dans l'humilité, il va être façonné, il va être dépouillé de son orgueil, de cette vanité, de ce monde. Il va apprendre dans ce temps mis à part à compter davantage sur Dieu et sa parole que sur ses forces et ses qualités. Il va apprendre. L'orgueil est destructeur. Je lisais cet article dans un des livres d'un pasteur qui s'appelait Butler, qui a écrit plusieurs témoignages à l'écoute de Dieu, notamment comment écouter Dieu, être à l'école de Dieu. Et dans un de ses livres, il raconte un témoignage vécu alors qu'il se rendait au port d'Halifax au Canada. Il aperçoit dans le port, à l'entrée du port, un bateau qui avait échoué. Et il se posait la question, mais comment se fait-il que ce grand navire a échoué si près du port? Et alors, des personnes qui étaient au courant de la situation l'ont renseigné. Et en fait, ce transatlantique qui venait d'Angleterre, un petit peu avant la zone où les pilotes qui viennent du port entrent dans le navire pour faire les dernières manœuvres, parce qu'il faut être très spécialisé, il y a des dangers, il a refusé. Donc le pilote principal a refusé que ses pilotes secondaires montrent dans le navire. Il a dit « Attendez encore, je vais continuer à manœuvrer. » Et il a continué à manœuvrer si mal qu'il a heurté un rocher et que le navire donc s'est éventré et il est resté sur place avant d'atteindre même le port. Ce capitaine était orgueilleux. Il n'a pas voulu laisser des subalternes ou des subordonnés prendre sa place pour diriger les dernières manœuvres. Du coup, ils ont perdu le navire et lui, il a perdu ses galons. Il a été destitué de sa position de capitaine. Il n'a plus jamais pu piloter un navire de sa vie. Voilà ce que fait l'orgueil. L'orgueil nous poussera à faire des mauvais choix. Il nous enfoncera dans des eaux troubles. Nous échouerons avant d'arriver au port. Tout ça, c'est les conséquences de l'orgueil. Or, David a été gardé dans l'humilité parce qu'il était appelé à des positions importantes et il fallait qu'il ait un cœur humble. Sinon, il aurait mal tourné, un peu comme ce capitaine, il n'aurait jamais pu tenir dans les voies de Dieu. Le deuxième test, on peut le lire au verset 16. C'est le test de l'obéissance. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères un épha de grains rôtis et 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers, et tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles, sûres. Ils sont avec Saül, et tous les hommes d'Israël, dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. » Là encore, David sait qu'il est le prochain roi d'Israël, mais son père lui demande d'aller porter des fromages, d'aller porter du blé, des grains rôtis à ses frères, mais ça c'est le travail d'un garçon de course, c'est pas le travail d'un roi. Mais voyez, David est soumis à son père. Il reconnaît que Son père a l'autorité sur lui et il va obéir à cet ordre tout simple d'aller porter de la nourriture pour ses frères. Est-ce que nous obéissons quand Dieu nous demande quelque chose? Est-ce que nous obéissons quand un responsable nous demande de faire quelque chose? Est-ce que nous sommes soumis? Parce que Dieu nous fait passer par le test de la soumission. Et si nous ne sommes pas soumis, si David n'avait pas voulu, eh bien il serait passé à côté du plan de Dieu. C'est très important cette soumission ici. Parce que le principe de l'autorité, c'est un principe qui a été donné par Dieu. Vous voyez, quand Jésus rencontre un centenier dont le fils était gravement malade, sur le point de mourir, cet homme, ce centenier, dit à Jésus, « Mais ce n'est même pas la peine que tu rentres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va et il va, à l'autre vient et il vient. À mon serviteur, fais cela et il le fait. » Ce centenier donc a confiance que si Jésus dit une parole, elle sera exécutée. Parce que lui, il comprend la soumission, il est lui-même soumis à des supérieurs et il sait que s'il donne un ordre, ça sera exécuté. C'est très important d'être soumis. Et l'autorité qu'il avait dépendait de sa soumission. Et c'est pareil pour nous. Si nous sommes soumis à Dieu, nous pourrons avoir l'autorité, mais si nous n'obéissons pas à Dieu, nous ne pourrons pas avoir l'autorité. Parce que si Dieu nous demande de diriger, comme c'est le cas de David, il va être un dirigeant, mais que David ne veut pas se soumettre, eh bien il ne pourrait pas être un bon dirigeant. Ce sera un dirigeant têtu, ce sera un dirigeant qui n'écoute pas les conseils, qui ne respecte pas les choses de Dieu. Et s'il s'était dit, après tout, moi, ce petit service, je n'ai pas envie d'obéir, je ne vais pas le faire, mon père va se débrouiller avec quelqu'un d'autre. Eh bien, voyez, cette attitude lui aurait fait manquer le grand rendez-vous. Le grand rendez-vous, c'est Goliath. David ne le sait pas encore. Mais Dieu a utilisé son père pour lui donner un ordre. Tu vas porter des fromages. Tu vas porter des grains rôtis. Mais David ne sait pas qu'en obéissant à ce simple ordre, il va rencontrer le grand géant Goliath. Mais Dieu, en fait, va le pousser à rencontrer Goliath. Sauf que si nous n'obéissons pas aux ordres et si nous ne nous soumettons pas, ben nous ne rentrons pas dans les choses de Dieu. Voyez, tout est lié dans la parole. Dieu voit notre attitude. Et David reconnaissait en Isaïe une autorité spirituelle. Et il se soumettait à son père. Comme c'est dit dans Colossiens 3:20, « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. » C'est un principe spirituel. Obéissez à vos parents. Ils ont l'autorité. Eh bien, si le père de David lui dit « Va porter ses 10 pains, va porter ses fromages », eh bien, il se soumet. C'est comme ça qu'il va gagner en autorité. Chaque étape est un test. En fait, si nous désobéissons constamment, eh bien, nous ne retrouvons pas au bon endroit. David a obéi et il s'est retrouvé devant le géant Goliath. Je remarque que chez Saül, il y a ce principe de soumission qui va rester, car même lorsque Saül va devenir mauvais, du fait que l'Esprit Saint s'est retiré de lui, mais il est toujours le roi d'Israël, eh bien, il va toujours veiller à respecter Saül, à dire « je ne toucherai pas loin de l'Éternel, je veillerai ». Il a eu l'occasion de le tuer plusieurs fois, il n'a pas voulu le faire, il a remis ce jugement à Dieu. Donc, il a toujours respecté ce principe. Et c'est quand Saül est mort qu'il a pris la place de Saül en tant que roi, d'abord de Juda et ensuite de tout Israël. Ainsi, il a tenu compte des étapes que Dieu lui avait consignées. Troisième test, après l'obéissance, nous voyons un combat contre la chair. 1 Samuel, chapitre 17, verset 28. Éliab, son frère aîné, qui avait entendu parler ces hommes, fut enflammé de colère contre David et dit « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit « comme la première fois. » Éliab, c'est le frère aîné de David. Et il n'a jamais accepté que David avait été oint à sa place. Parce que lui, en tant qu'aîné, il avait la première place, la première part, la première portion, et il voyait bien qu'il aurait dû être roi. Mais selon le plan de Dieu, non, c'était David. Et donc, il a gardé quelques rancœurs, quelques mauvais sentiments par rapport à David. David n'a rien fait de mal, mais c'est vrai pour nous, frères et sœurs. Vous ne ferez rien de particulier, mais il y a des gens qui vont ressentir une forme d'animosité, qui vont vouloir vous évincer, qui vont vouloir du mal, qui vont avoir de la haine pour vous. Vous ne comprenez même pas pourquoi, mais c'est ainsi. Et là, c'est un test. Car David aurait pu réagir au pied de la lettre et dire à son frère, « Mais qui es-tu pour me traiter comme ça ? Pour qui tu te prends ? C'est moi qui ai l'onction. Tu peux te taire. Va-t'en. » Il aurait pu le juger, il aurait pu se battre avec lui, ça aurait pu mal tourner cette affaire. Combat contre la chair, un test. Éliab, en fait, n'étant pas rempli du Saint-Esprit, il va être comme un obstacle sur la route de David. Et si David n'avait pas veillé et qu'il serait, admettons, s'il était rentré en conflit avec lui, qu'il aurait perdu du temps ici et il n'aurait pas vu la grande mission qu'il attendait, c'était Goliath, il serait passé à côté du grand combat. Alors, au lieu de se disputer, et il y a des querelles inutiles, verset 30, il se détourna de lui. Il n'a pas de temps à perdre avec quelqu'un qui est querelleur, avec quelqu'un qui veut discuter, avec quelqu'un qui veut le critiquer. Il se détourne de lui, il va voir quelqu'un d'autre, et il continue son chemin. Eh bien, c'est ça. Quand nous voulons suivre la voie du Seigneur, nous serons testés et il y a des gens sur notre route qui vont nous arrêter pour des combats secondaires, pour des combats inutiles, des combats contre la chair. Si on perd du temps dans ce type de combat, mais nous risquons de manquer le vrai combat, le bon combat de la foi qui était contre le géant Goliath. Mais David l'a compris et il a dit « Je ne perdrai pas de mon temps avec mon frère ici, je vais me concentrer sur la mission que Dieu a pour ma vie. » Beaucoup de chrétiens perdent leur temps dans des combats inutiles. Le diable même se réjouit lorsque des chrétiens se disputent et comme ici qu'ils se reprochent des choses, qu'ils se dénigrent, ça affaiblit l'Église de l'intérieur. Alors il y a de la haine, il y a de la colère qui monte. Est-ce qu'un chrétien peut se mettre en colère ? Personne n'ose répondre. Mais oui, malheureusement. Et quand vous savez ce qu'il fait quand il est en colère un chrétien contre un autre chrétien ? Vous savez ce qu'il fait ? Il le mord. C'est dans Galates chapitre 5, verset 15. « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Ça vous est déjà arrivé d'avoir une morsure de chrétien ? Ça fait mal, ça laisse des cicatrices ? C'est douloureux ? Parce qu'il y a des chrétiens un peu hybrides, vous voyez, ils ont un peu l'âge de brebis, mais vous approchez la main, c'est les dents du crocodile qui sortent. Alors vous pouvez dire à votre voisin, je ne suis pas comestible, ça ne sert à rien de me mordre. Certains passent tellement de temps à se mordre les uns les autres, à s'entre-déchirer, mais ils passent constamment à côté des vrais combats. Ils combattent contre la chair. Mais la Bible, et c'est Paul qui nous dit, il y a le bon combat de la foi. Et vous croyez que le bon combat de la foi, ça consiste à mordre, à déchirer, à dénigrer, à détruire. Mais là, on fait l'œuvre du malin. On est en train de faire le combat de la chair. C'est ce que David aurait pu faire s'il s'était entêté à parler à Éliab et engagé avec lui peut-être un conflit, une crise ouverte et se battre ensemble et perdre du temps, se déchirer, se mordre l'un l'autre. Mais Paul nous parle du bon combat de la foi. Ça me fait penser à cette histoire de ce couple. Un couple qui avait acheté un magnifique petit chien, mais ce chien, il était très agressif. Très agressif. Et particulièrement envers les chiens plus gros que lui. Quand il voyait un molosse, il l'agressait, il l'attaquait. Un bulldog, il l'agressait. Mais alors à chaque fois, il revenait avec des blessures. C'était un vrai problème. Pareil, s'il croisait un pitbull, il se jetait dessus, il l'agressait. Alors, au bout d'un moment, les propriétaires de ce petit chien, désespérés, l'ont emmené chez le vétérinaire. Le vétérinaire a ausculté ses yeux. En fait, il avait une malformation au niveau des yeux. Et il voyait tout en petit. Ouais. Alors il a subi une opération au niveau des yeux. Et quand sa vue a été rectifiée, il n'était plus agressif. Il était devenu tout doux. Il avait retrouvé sa vraie personnalité. Et peut-être on a besoin aussi que Dieu nous opère des yeux. C'est Paul qui le dit, que nous devons considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. On a été opéré des yeux. Mais si je ne suis pas opéré des yeux, je vais juger, je vais critiquer, je vais condamner, je vais être agressif. Oui. Le quatrième test, c'est dans 1 Samuel chapitre 17, verset 38. C'est le test de l'armure d'un autre, l'armure de Saül. Verset 38. « Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. Lorsque David est conduit devant Saül, c'est déjà une étape importante, parce qu'on a discerné en lui des paroles de foi. Il a dit, « Mais moi, je me lèverai, j'irai me battre contre ce Philistin. » Il est dans la foi. Et quand Saül reçoit David, il essaie de le dissuader dans un premier temps, en disant, « Mais toi, tu ne peux pas y aller. Tu vois bien que tu ne peux pas y aller. Tu es un jeune homme. En face, c'est un homme de guerre. Toi, tu es un enfant. Tu n'as pas la formation militaire. Tu ne sais pas te battre. » Donc, il a tous les arguments pour lui dire, « Ce n'est pas toi qui vas y aller. » Ça, c'est ce qu'on appelle le raisonnement selon la chair, ou le raisonnement humain non régénéré, non inspiré par l'esprit. C'est ce que nous voyons d'une manière naturelle. D'une manière naturelle, David est le plus faible, il n'y arrivera pas, il est plus petit. Mais il y a une autre vision, c'est la vision spirituelle, que le roi Saül n'a pas. Parce que si nous ouvrons les yeux de la foi, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que David est rempli du Saint-Esprit. Nous voyons qu'il a une proximité avec Dieu. Nous voyons qu'il peut accomplir des exploits. Et nous voyons que Dieu est dans sa vie et que Dieu va le conduire de victoire en victoire. Ça, c'est par les yeux de la foi. Sauf que Saül a les yeux fermés. Il ne voit que les choses de la terre. Il ne voit que les difficultés présentes. Il ne voit pas les choses de Dieu. Alors, David arrive à le persuader. Saül finit par dire que l'Éternel soit avec toi. Mais voyez, même derrière ces paroles qui paraissent spirituelles, que l'Éternel soit avec toi, que Dieu te bénisse, on pourrait dire. En réalité, Saül ne croit pas que Dieu est vraiment avec lui et il va lui mettre sa propre armure parce qu'il se dit, si au moins il prend des coups, il sera protégé. Les coups seront amortis. Et l'armure ne colle pas. L'armure, c'est celle de Saül. Et nous ne pouvons pas prendre l'armure d'un autre, car Dieu a un vêtement pour nous. C'est un revêtement de louange. C'est le vêtement du salut. Ce n'est pas parce que quelqu'un a son vêtement que je vais pouvoir mettre le même vêtement. Chacun a le sien. David l'a compris. Il a essayé en se soumettant au roi, mais il a dit, je ne peux pas partir avec cette armure. Elle n'est pas à ma taille, elle est trop lourde, et il s'en est débarrassé. C'est quoi ici? C'est un test. C'est le test de l'armure d'un autre. Est-ce que nous allons accepter d'aller avec notre foi, avec ce que Dieu nous a donné, avec les vêtements que Dieu nous a donnés, en disant ce n'est pas sur le nombre, ce n'est pas sur nos capacités, sur nos ressources, mais c'est avec les armes de Dieu. 2 Corinthiens 10, 14, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Eh bien, si David avait choisi les armes charnelles, il aurait échoué au niveau du test et il n'aurait pas pu manier sa fronde avec agilité, avec dextérité. Quelles armes avons-nous? Nous avons la foi, nous avons la prière, nous avons la parole de Dieu et nous n'avons pas besoin de plus que les armes de Dieu parce qu'elles sont tout ce que nous avons besoin. Mais il ne nous faut pas moins. Il y a les 6 armes qui sont mentionnées dans Éphésiens 6. Et si, comme Saül, nous portons des poids humains, mais que nous ne nous chargeons pas de l'armure de Dieu, eh bien, ça va nous précipiter vers la mort. Vous voyez, c'est un peu comme si on a un sac à dos. Lorsque j'étais au service militaire, on nous a fait porter des sacs à dos de 40 kilos. Et après, ils nous ont dit, vous allez sauter du bord du précipice jusqu'à l'autre bord là-bas. Mais tous on a essayé, tous ont tombé. On n'arrivait pas à sauter de l'autre côté. Parce qu'avec le poids qu'on avait sur les épaules, eh bien, on était contraint de... Ou alors, il fallait une énergie tellement puissante, tellement énorme. Si on a quelque chose sur les épaules, c'est un fardeau, on ne pourra pas accomplir de grandes choses. Il faut déposer ce fardeau, et là, on peut sauter facilement. Mais combien de chrétiens portent des fardeaux inutiles ? Dieu ne nous a pas demandé de porter ces fardeaux. C'est pourquoi déchargez-vous de tous vos soucis. Déchargez vos fardeaux, Seigneur, et vous pourrez courir dans la carrière. Courir vers le but, dit Paul. Mais avec un fardeau, essayez de courir avec un sac à dos de 40 kilos. Vous allez marcher, vous allez vous écrouler. Déchargez-vous de ce fardeau. Je termine avec un dernier test, c'est au verset 40. C'est le test de la préparation. Donc, il prit en main son bâton, c'est David. Il choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger, dans sa poche. Et puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. David sait que Dieu est avec lui. Il sait que la victoire va être remportée. Il est dans la foi. Mais ça n'empêche pas qu'il va prendre un temps à s'isoler, à prier, à prendre le nécessaire, choisir les pierres. Et tout cela dans la communion avec Dieu. Et en fait, c'est là, dans le lieu secret, qu'il reçoit la stratégie, qu'il reçoit les directives. Il ne part pas comme ça directement au combat. Il se met à part. Il écoute le Saint-Esprit, il écoute Dieu parler à son cœur. Comment vais-je faire, Seigneur ? Avec quels outils ? Avec quels moyens ? Avec ta fronde. Il reçoit la manière de faire. Mais la fronde, ça paraissait un instrument si faible, si petit par rapport à l'armure du géant Goliath. C'était avec la fronde. Il a préparé ses 5 pierres. En fait, en réalité, il n'avait pas besoin de 5 pierres. Avec une seule pierre, il a remporté la victoire. Mais la préparation, je prépare mes 5 pierres. Donc, il prévoit, si la première pierre ne fonctionne pas, il y en a d'autres derrière. Vous voyez ? Il ne va pas être surpris. Ça, c'est notre part. Étudier la Bible, prier, méditer la pensée de Dieu. C'est notre préparation dans le lieu secret. Et quand nous allons sur le champ de bataille, nous sommes prêts. Nous avons des pierres. Nous avons des versets. Quand on connaît des versets bibliques, c'est comme si on a des pierres dans le cœur et qu'on peut utiliser quand on est dans le combat spirituel. Mais si nous ne sommes pas prêts, si nous ne prenons pas ce temps à part, eh bien nous allons au combat mal préparés et souvent c'est l'échec. Mais comment se préparer ? Éphésiens 5, 19, Paul dit... Entretenez-vous par des psaumes, ce sont des versets de la parole de Dieu. Entretenez-vous par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom du Seigneur Jésus. Voyez, quand vous êtes dans la difficulté, louez le Seigneur. Mettez un CD de louanges ou un MP3 ou dans la voiture et on commence à s'exhorter et à louer le Seigneur. On s'exhorte, on s'entretient par des psaumes. Par des hymnes. Comme ça, notre esprit va s'éclaircir et on va percevoir la pensée de Dieu. Mais il n'y a rien de pire que de raisonner avec notre esprit humain. Quand on essaye de réfléchir comment faire ceci, comment faire cela, eh bien demandons le secours de Dieu qui nous conduira dans la bonne méthode. C'est la fronde qu'il faut. C'est ça qu'il avait besoin d'entendre. C'est ça qu'il a reçu dans le lieu secret. Parce qu'un tel va vous conseiller ceci, le roi lui conseillait l'armure, un autre lui disait « tu devrais aller avec une lance ». Un autre lui disait « tu devrais prendre une épée ». Non. Il a reçu de Dieu ce qu'il fallait, ce qui était nécessaire. Quand on ne voit plus rien, écoutons le Seigneur. C'est un peu comme ce pilote d'avion qui est dans le brouillard, il ne voit absolument rien. Comment va-t-il faire pour atterrir ? S'il se fie à ses yeux, il ne peut pas. S'il faut aller à droite, s'il faut aller à gauche, s'il faut surélever l'appareil ou s'il faut descendre, il ne sait pas. Il va se fier uniquement aux informations qu'il reçoit de la tour de contrôle qui le guide. Et s'il écoute bien la tour de contrôle, s'il fait exactement toutes les procédures, eh bien il va voir au dernier moment la piste d'atterrissage. Mais il faut qu'il fasse confiance, sans rien voir. C'est ainsi la vie chrétienne que nous devons apprendre à écouter Dieu et lui faire confiance, quand bien même nous ne voyons pas encore la piste d'atterrissage. Mais dans ce brouillard, écoutons la voix du Saint-Esprit, le Seigneur nous parler. Voilà David. Il a triomphé, oui, du géant Goliath, avec une seule pierre et une fronde. Mais je voulais voir avec vous les nombreux tests par lesquels il est passé. Et s'il avait échoué à l'un de ces 5 tests, il n'aurait pas été prêt pour le géant Goliath. Voyez, il y a des victoires qui sont remportées, on ne retient que la victoire. Mais n'oublions pas que cela nécessite l'obéissance, ça nécessite l'humilité, ça nécessite la victoire sur la chair, ça nécessite de refuser les méthodes ou l'armure d'un autre, ça nécessite un temps de préparation, de communion avec Dieu. Tout cela fait partie de la victoire aussi. Ça ne se voit pas, c'est caché, c'est dans le lieu secret. Mais ça sera pareil pour nous, car Dieu a prévu des tests sur notre parcours. Nous ne pourrons pas accomplir des exploits sans passer par les tests. On ne peut pas directement aller vers le géant Goliath. Il y a toutes ces victoires à remporter, et ces victoires nous préparent pour le grand combat qui est là, qui est à venir. Alors comment réagissez-vous? Si vous êtes tenté, si vous êtes éprouvé, est-ce que vous passez les tests ou est-ce que vous rejetez les tests? Et si vous rejetez les tests, vous ne pourrez pas accomplir ces exploits. J'aimerais qu'on prie quelques instants. Merci pour ta parole qui est pleine de bons conseils. Et nous voyons combien David a passé tous ses tests avec foi. Et je te prie ce matin pour celui qui est toujours dans ses tests. Test de l'obéissance, test de l'humilité, le combat contre la chair. Nous voulons remporter ces victoires, car nous savons qu'il y a un but, il y a un objectif, et nous voulons être prêts, Seigneur. Ô Seigneur, nous ne voulons pas mettre de côté ta parole, la mépriser, mais nous voulons ouvrir nos cœurs à ton conseil, être des enfants malléables entre tes mains, être soumis à ta pensée et faire toute ta volonté. Merci de bénir chacun cet après-midi, ce matin, tu vois les besoins, tu vois les cœurs, tu vois celui qui est venu peut-être dans ses combats, mais je te prie, Seigneur, de donner la force, de donner le discernement, de donner les paroles de foi, de donner, Seigneur, la pensée, l'onction, pour bien réagir comme David l'a fait alors qu'il aurait pu se battre et lutter contre la chair. Alors il a eu la sagesse de se détourner et d'aller plus loin. Seigneur, tu nous donnes ta pensée, Seigneur, et tu nous conduis de victoire en victoire pour la gloire de ton nom. Amen.